Voici un texte qui vient compléter les deux de la semaine dernière concernant ce thème que nous continuons ce matin, Dieu, l'argent et moi. Je résume rapidement ce que nous avons dit la fois précédente. Tout d'abord, nous avons noté que la Bible parlait beaucoup d'argent. Signe donc de la place importante que cette question devrait avoir dans nos réflexions. Aussi, sachant cela, nous sommes partis à la recherche, à travers quelques mots-clés, de ce qui nous est enseigné à ce sujet dans la parole de Dieu. Nous avons trouvé quatre directions principales. La liberté, d'abord. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais une liberté qui sera volontairement entourée de vigilance. Parce que tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Ensuite, nous avons évoqué la place de la jouissance. Que les riches placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Une place légitime, donc. Mais à condition que se réjouir soit porté par un autre comportement essentiel, un comportement que Laura a repris dans son introduction, le contentement. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Et au bout du compte, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Quatre points et quatre mots-clés donc, qui sont là pour nous aider à chercher un véritable équilibre dans ce domaine. Mais, puisque les contours exacts de cet équilibre ne sont pas dessinés noir sur blanc dans la Bible, nous avions dit qu'il allait donc nous falloir apprendre à vivre cela dans la dépendance à Dieu. En déposant littéralement tout devant Dieu, et ensuite en cherchant, dans la réflexion, le discernement et la prière, sa direction en ce sens pour nos vies. Et nous nous étions arrêtés là. Mais non sans avoir ajouté, comme un teaser insoutenable, n'est-ce pas, qu'en fait, la lecture de ces passages faisait probablement apparaître encore un cinquième et dernier mot-clé. Et même un mot-clé qui était au cœur de ces textes et qui était donc appelé à devenir pour nous le pivot central pour une juste compréhension de l'utilisation de nos richesses. Et aujourd'hui donc, comme promis, nous allons consacrer la suite de cette réflexion à essayer de détailler ce dernier point essentiel. Allons-y. Quel est l'axe fondamental de ce passage que nous avons lu? Eh bien, il me semble qu'il est contenu dans le verset 7. Mais deux mots de contexte avant de le découvrir. En fait, dans ce passage, Paul est en train d'écrire au sujet d'un projet de don des différentes églises de l'époque pour leur église mère, celle de Jérusalem, qui passait par une période bien difficile. Et au cœur de son développement, Paul vient affirmer avec force la chose suivante, qui est comme un résumé quelque part de toute son argumentation. Vous êtes riche dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Nous y voilà. Voici enfin notre cinquième et dernier mot-clé, l'excellence de la générosité. Voilà, l'excellence de la générosité. Oui, exceller dans la générosité est l'axe principal d'une gestion saine et biblique de notre argent. Et oui, exceller dans la générosité est aussi l'articulation autour de laquelle nos quatre autres principes pourront trouver sens et équilibre. Au cœur d'une générosité excellente. Et alors je vous assure que dans ce terme « exceller », il n'y a pas d'ambiguïté. On y retrouve littéralement dans le mot original les notions d'abondance, d'encore plus, de débordement. ni plus ni moins. Chers amis, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et ça nous remue un peu, n'est-ce pas ? Ça nous remue parce que cela nous force à nous poser la question, mais est-ce que moi, je déborde ainsi de générosité, comme m'y invite Paul ici ? Est-ce que mon foyer à moi se caractérise réellement par cette abondance de générosité ? Oui, pourrais-je affirmer honnêtement que j'excelle en la matière ? L'appel est fort quand même. Il est conséquent. Et peut-être aurions-nous préféré qu'il soit un peu différent. Alors bien sûr, on a envie de se dire que ce passage a quand même été écrit dans un contexte très précis. Et du coup que peut-être, par chance, nous ne serions pas concernés directement. Vous savez, c'est cette habitude que nous avons toujours de prendre pour nous sans hésiter les passages bibliques qui nous font du bien, de nous les approprier et de les citer abondamment, sans faire attention d'ailleurs au cadre dans lequel ils ont été écrits. Mais par contre, de toujours remettre avec le plus grand empressement, dans leur contexte le plus strict, les passages qui nous dérangent davantage. Alors est-ce le cas ici ? Oui, ces paroles de l'apôtre Paul sont-elles effectivement contextuelles ? Et devons-nous donc les ignorer, nous que l'Église de Jérusalem n'a pas sollicité pour subvenir à ses besoins ? Et c'est une vraie question, je crois. Comment savoir, de manière générale déjà, et ici particulièrement, jusqu'où certaines paroles de l'Écriture, écrites dans un contexte précis, nous concernent ? Eh bien, il me semble que deux éléments pourraient nous aider à répondre. D'abord, ce sera en regardant l'enseignement global de toute la Bible sur cette question des dons. Et qui découvrons-nous ? Eh bien, sans aucun doute, que la Bible tout entière appelle à une grande générosité envers Dieu, envers le service de Dieu, envers les pauvres, envers les étrangers. Et ainsi de suite. On trouve cela dans la loi, on le trouve dans les prophètes, on le trouve aussi dans les livres poétiques, et bien sûr, on le trouve dans tout le Nouveau Testament. Le même son de cloche. Je vous cite juste un verset peut-être qui résume un peu tout cela. « Voilà ce à quoi je prends plaisir, dit Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oui, toute la Bible nous montre que la générosité nous concerne pleinement. Et puis sinon, même si on se limite juste à notre texte, je me dis que nous pouvons aussi essayer de dégager les principes spirituels universels qui sont inscrits derrière ces mots qui relèvent d'une situation particulière. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends juste un autre exemple pour illustrer cela. Un exemple parallèle, toujours sur cette question de l'argent. C'est l'histoire de Zachée dans Luc 19. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Un texte bien connu. Mais que nous dit-il en fait ? Que chacun d'entre nous doit donner la moitié de ses biens et rendre 4 fois plus à ceux qu'il a extorqués ? Non, ceci était propre à Zachée et à sa situation. Mais par contre, le principe spirituel caché là derrière saute aux yeux et il est, lui, pour chacun d'entre nous. Lorsque le salut entre dans une maison, cela devrait toujours entraîner une générosité abondante. Et il en est donc de même avec notre passage de Corinthiens. Non, nous ne sommes évidemment pas appelés à donner pour l'Église de Jérusalem, mais pour autant, ces paroles nous concernent bel et bien. Et elles nous invitent sans ambiguïté donc à manifester dans notre contexte à nous la même excellence. Et cela, oui, nous reprenons le cours de notre réflexion, cela, oui, nous secoue effectivement un peu. Pourquoi ? Eh bien, sans doute simplement parce que nous sommes immergés dans un monde qui ne vit absolument pas ainsi. Parce que nous vivons dans un monde qui donne, oui, un peu, les statistiques le montrent, mais un monde pourtant et surtout qui garde encore et encore la grande majorité de ce qu'il a pour sa propre joie, son propre épanouissement, son propre profit ou son propre avenir. Et cette dynamique de notre monde nous influence tellement. Et donc oui, nous sommes bien obligés de le reconnaître, nous, chrétiens occidentaux du XXIe siècle. Nous sommes globalement déficients dans ce domaine de l'excellence de la générosité. J'en veux pour preuve, des études ont été menées à ce sujet. Alors elles nous viennent certes d'outre-Atlantique, mais gageons qu'elles seraient assez semblables chez nous. Des études qui affirment que les chrétiens consacrent en moyenne 3% de leurs revenus à l'Église ou à différentes œuvres de solidarité. Peut-on parler ici de l'excellence prônée dans la Bible ? Je n'en suis pas sûr. Alors, que faire ? Oui, que faire si nous sommes ainsi déficients à la matière ? Que faire pour arriver à grandir dans cette excellence ? Comment, de manière très pratique, mettre en lumière nos décalages ? Et comment trouver des pistes pour y remédier ? Et puis ensuite, et de manière beaucoup plus profonde sans doute, comment avoir même juste envie d'aller dans cette direction ? Oui, comment trouver l'envie d'avoir envie d'être généreux ? Ce sont sur ces deux éléments que je vous propose de nous attarder à présent. D'abord donc, une piste pratique pour apprendre à construire au quotidien une générosité excellente. Et puis ensuite, une piste pour le cœur, afin de faire naître et grandir en nous ce désir de générosité. Nous démarrons donc avec une proposition concrète. Il me semble en fait, à la lueur de tout ce que nous avons dit jusque-là, que la question très pratique qui nous est posée est la suivante. Comment, dans notre vie, concilier convenablement cette démarche de profonde générosité, tout en gardant, puisque cela est aussi légitime, une place pour nous réjouir de nos biens? C'est une question de positionnement de curseur, en fait. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas donner une réponse précise à cette question. Devons-nous donner 20, 50, 100, 500, 1000 euros par mois ? Ou devons-nous donner 5, 10, 20, 30, 50% de nos revenus ? Il est impossible de le dire, car tout ça dépend trop de la quantité que chacun a à disposition, mais aussi de la liberté de chacun, cette liberté que Dieu a voulu. Alors on devine, bien sûr, pour le français moyen, j'entends, que certaines sommes ou certains pourcentages auront du mal quand même à tenir face à cette notion d'excellence. Mais pour autant, difficile d'aller plus loin. C'est pour cela que je vous propose de voir les choses un peu autrement et de donner une piste de réflexion un peu différente. Une piste qui cherche juste en fait, et quel que soit notre niveau de vie, à mettre en balance la part que l'on consacre à nos plaisirs et celle que l'on garde pour nos dons, afin d'essayer de les équilibrer le plus pertinemment possible. Alors, je précise avant d'aller plus loin que c'est seulement une piste, bien évidemment, qu'elle n'a absolument pas vocation à devenir une norme, et que si elle ne vous paraît pas satisfaisante, eh bien laissez-la bien sûr tomber sans remords pour chercher l'excellence de la manière que vous estimerez pertinente. Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Je précise également d'ailleurs que cette piste ne s'adresse probablement pas à tous ceux parmi nous qui sont les plus démunis financièrement. Oui, pour ceux pour qui subsister chaque jour est déjà un défi en soi. Pour ceux pour qui la prière « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien » est on ne peut plus concrète chaque matin. Pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous en remettre avec confiance à votre Père Céleste sur ce sujet est déjà, je crois, de l'ordre de l'excellence dont parle Paul. Et je ne sais pas s'il serait pertinent d'aller plus loin. Mais par contre, pour tous les autres, c'est-à-dire pour la grande majorité d'entre nous tous qui ne nous inquiétons pas de ce que nous mangerons ce soir, voici donc une piste possible pour apprendre à équilibrer jouissance et dons. Alors pour cela, dans un premier temps, je crois qu'il nous faut mettre en lumière la distinction dans nos vies entre ce que nous appellerons le nécessaire et le surplus. Alors c'est déjà ici un premier défi, car nous n'aurons clairement pas tous la même définition du mot « nécessaire ». Certains y verront le strict absolu pour survivre, un peu à l'image d'un Jean-Baptiste dans la Bible, qui possédait en tout et pour tout un seul vêtement et se nourrissait de miel sauvage. D'autres, au contraire, emboîteront davantage le pas du mode de vie actuel de notre société et rangeront un peu tout dans cette catégorie du nécessaire au fur et à mesure que leurs armoires se rempliront. Deux visions différentes. Personnellement, je vous propose une définition médiane. À mon sens, le nécessaire est ce dont on pourrait difficilement se passer pour vivre nos quotidiens avec sobriété. J'étais plutôt content de ma définition. Ce dont on pourrait difficilement se passer pour vivre nos quotidiens avec sobriété. Et donc, par exemple, juste pour illustrer, mais pour ma part, j'inclurai dans notre nécessaire au XXIe siècle, outre nos besoins primaires classiques, des choses telles que le lave-linge ou le réfrigérateur, parce qu'il serait quand même bien compliqué de faire sans aujourd'hui. Alors que je n'y mettrais pas le téléviseur, ou même cette jolie tablette toute neuve qui me plaît beaucoup, parce que même s'ils ont ces choses-là ont une part d'utilité, eh bien, il ne me semble pas revêtir un caractère indispensable. Et puis, je rajouterai également dans cette catégorie la question de l'épargne, car c'est aussi une problématique dont on doit tenir compte. Et je dirais donc que le nécessaire, c'est aussi ce qu'il serait insensé de ne pas provisionner pour les échéances à venir de notre vie. Et vous remarquerez volontairement une certaine mesure dans les mots choisis ici. Car si notre épargne a évidemment du sens, elle ne devrait jamais toutefois, par son ampleur, nous empêcher de rester dépendants de Dieu. De ce Dieu à qui on est toujours appelé à s'attendre pour qu'il pourvoie dans nos vies. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà donc pour cette définition. Même si je le dis de suite, elle ne prétend pas être parfaitement complète, hein. Et chacun de nous, selon nos situations, nous aurons peut-être d'autres choses à y rajouter. Prendre soin d'un parent malade, visiter notre famille éloignée, ainsi de suite. Je ne voudrais surtout pas nous enfermer dans un énoncé simpliste. Mais je crois que c'est plutôt en substance que je vous invite à la comprendre. Parce que celle-ci va quand même nous être bien utile. Oui, je le crois, réfléchir à une définition de ce type nous sera utile. Parce que cela va nous permettre concrètement de faire la distinction entre deux types de choses dans nos quotidiens. Celles pour lesquelles nous n'avons pas de marge de manœuvre, le nécessaire donc, et puis les autres. Car donc, tout le reste dans notre vie va se trouver dans la catégorie du surplus. Et c'est là, et seulement là, et c'est pour ça encore une fois que cette distinction me paraît pertinente, c'est là et seulement là que nous allons pouvoir intervenir et que nous allons pouvoir modeler les choses sur ce surplus, sur cette part qu'il reste à notre disposition. Aussi, après avoir isolé notre nécessaire, voici l'expérience que je nous invite à faire sur cette part restante. Elle est un peu fastidieuse, je le reconnais, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je crois. Et les résultats pourraient vraiment nous faire réfléchir et avancer. Je nous propose simplement de prendre une feuille et de faire deux colonnes. Dans la première, nous relèverons tout le surplus sur une année, par exemple, tout le surplus que nous avons gardé pour nous. Nos dépenses liées, quelques exemples, nos dépenses liées au plaisir que je qualifierais d'alimentaire, petit resto, repas de fête. Nos dépenses liées au plaisir vestimentaire, l'agrémentation progressive de notre garde-robe. Nos dépenses également liées à notre maison, l'embellissement de notre foyer, les travaux d'agrément, l'augmentation de notre confort, le renouvellement de certains appareils. Et puis évidemment, tout le reste, les cadeaux offerts, les week-ends ici ou là, les vacances et les frais qu'elles engendrent. Et puis peut-être aussi une certaine épargne de confort, et ainsi de suite. Tout cela, toutes ces choses au-delà de notre humble nécessaire, ce sera notre première colonne. Et elle a du sens, bien sûr, hein, je ne dis surtout pas le contraire. Et puis dans la deuxième, nous y mettrons juste la somme de tous nos dons, ce que nous donnons pour l'avancement du royaume de Dieu, à notre église locale, par exemple, puisque son but est d'œuvrer pour ce royaume, à diverses missions, au près comme au loin, pour la diffusion de l'Évangile ou pour l'encouragement des chrétiens. Et puis ce que nous donnons également pour manifester la compassion de Dieu envers les plus pauvres et les plus démunis dans notre monde. Oui, remplissons ces deux colonnes. Et puis ensuite, simplement, regardons-les et comparons-les. Ce premier constat déjà, et les écarts éventuels que nous pourrions y trouver, pourraient nous être profitables. Mais ensuite, après avoir regardé, je vous propose d'oser aller encore plus loin et de faire la chose suivante. Puisque, nous l'avons vu, il y a dans notre vie une vraie place pour la jouissance, mais que nos dons, eux, sont pour leur part appelés à l'excellence. Eh bien alors, investissons dans les deux colonnes. Oui, vraiment. Mais sans hésiter, faisons gagner la colonne de nos dons. Et plus nous avons à disposition, ou encore plus nous avons de libéralité dans ce domaine, plus alors nous pouvons lui donner une victoire éclatante. Ceci sans pour autant renoncer à tout plaisir, donc. Oui, sans renoncer, même si, je ne dis pas le contraire, il y aura quand même un coût à un tel fonctionnement. Et c'est inévitable. Si nous voulons pouvoir entrer dans de telles démarches, nous devrons accepter quand même de renoncer à certaines choses. Et nous devrons accepter également, d'ailleurs, de vivre dans un certain décalage par rapport au monde qui nous entoure. C'est vrai, et ce ne sera pas toujours simple, bien sûr. C'est donc pour cela qu'il nous faut absolument trouver une bonne et profonde motivation pour agir ainsi et pour y persévérer. Et c'est la deuxième piste que nous allons voir. Une piste qui sera moins pratique, sans doute, mais qui me semble pourtant être la plus importante, car elle seule pourra vraiment agir sur notre cœur. Nous la découvrons aussi dans notre texte, car, fait essentiel à relever, Paul la lie inextricablement à son appel à la générosité. Vous êtes riche dans tous les domaines, dit Paul, cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voulons-nous être généreux? Voulons-nous même juste avoir envie de l'être? eh bien alors il va falloir nous tourner, il va falloir tourner nos regards vers Jésus-Christ. Prenons un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Jésus est le Seigneur de l'univers, le roi de la terre et du ciel, le fondateur des galaxies, le Dieu tout-puissant en personne. Alors que nous, nous sommes des créatures si petites, perdues dans l'immensité du temps et de l'espace, des vies fragiles et éphémères qui passent comme un souffle. Oui, il y a un gouffre entre le Créateur et ses créatures. Pourtant, Jésus a volontairement choisi de franchir ce gouffre et d'abandonner tous ses privilèges pour naître parmi nous, homme et pauvre dans une étable. Lui, le Créateur parmi ses créatures. Sans jamais rien pour attirer les regards, mais au contraire pour finir par mourir humilié sur une croix. Tout cela, toutes ces pertes, dont on ne mesure sans doute même pas l'infime part d'ailleurs, toutes ces pertes dans un seul et unique but, que moi, je puisse gagner quelque chose. Oui, Jésus nous a tellement aimés qu'il a considéré que ces pertes, aussi énormes soient-elles, valaient le coup. Témoignant ainsi de la plus belle des manières que nous avons infiniment de valeur pour lui, que notre salut a infiniment d'importance pour lui. Et effectivement, c'est constater cela, et seulement cela, qui pourra nous motiver à donner, et même à donner largement. Cela devrait nous motiver d'abord, je dirais, comme un juste retour des choses. Jésus a tellement perdu pour que nous puissions gagner. Serons-nous prêts en retour, comme pour rendre un peu de ce qui nous a été donné, à perdre aussi pour que d'autres gagnent? Oui, pourrons-nous dire, comme le chante le groupe Antidote, « C'est la moindre des choses que je puisse faire pour te dire merci. » Et puis aussi, l'exemple de Jésus devrait nous motiver également en tant qu'exemple, justement. Car en manifestant une excellence dans nos dons, nous attesterons avec force, comme lui, à son image, que nous aussi, nous accordons une grande valeur aux gens de ce monde, à leur vie et à leur salut. Ainsi, comment apprendre à avoir envie de donner et même d'exceller dans ce domaine? Eh bien, ce ne pourra être, je le répète, qu'en contemplant toujours plus et en comprenant toujours plus cette œuvre que Jésus a accompli pour nous. Et comment pourrons-nous toujours mieux contempler et mieux comprendre cette œuvre? Eh bien, ce sera bien entendu en demeurant toujours plus proche de lui. Ce sera en le côtoyant davantage par la prière et par la lecture de la Bible que ses actions, ses sentiments et ses pensées nous imprégneront de plus en plus. Ainsi, notre piste pour le cœur sera donc la suivante. Si nous voulons vraiment exceller dans nos dons, bien au-delà encore qu'une bonne organisation et que le remplissage de colonnes, il nous faudra d'abord et surtout apprendre à nous remplir de lui. Nous terminons. Après avoir parlé de liberté, de vigilance, de jouissance et de contentement. Nous avons donc vu ce matin le thème principal de ces textes, à savoir la générosité abondante. Et un appel à la générosité qui nous pousse donc à étudier sérieusement cette question et à prendre peut-être même des mesures concrètes parfois pour progresser dans ce domaine. Et puis, un appel en tout cas qui, pour qu'il puisse authentiquement s'exprimer en nous, nous pousse à revenir sans cesse à celui dont la générosité est la plus parfaite et la plus excellente. Et cet appel ne va pas sans promesse en retour de la part de Dieu. Nous les avons déjà citées dimanche dernier, mais je les reprends car elles sont en plein dans ce contexte de dons généreux. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, mais semence généreuse, moisson abondante. Oui, en agissant de la sorte, ceux qui ont des richesses s'assureront ainsi pour l'avenir, dit Paul, un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Alors, que Dieu, pas à pas, progressivement, comme un père apprend à ses enfants, que Dieu nous conduise dans toutes ces choses, à la mesure de ce que lui-même a prévu pour chacun d'entre nous. Oui, qu'il nous fasse la grâce d'être généreux et que toute gloire puisse lui en être rendue. Amen.